الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فإخوتي في الله نواصل بعون الله عز وجل وتوفيقه وإذنه الشرعي والكوني قراءة ما يتيسر لنا من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله وقد توقفنا في باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم. طيب. من يذكر لنا ما ذكرنا من مفسدات الصلاة؟ Qui nous rappelle ce qu'on a mentionné parmi les choses qui annulent la prière.
Non, le rire avec le sang.
Non, comme on appelle en arabe, ça se dit comment? Al-qah-qaha. Donc al-qah-qaha annule la prière. Et al-qah-qaha, on a dit, c'est pas n'importe quel rire, mais c'est le rire avec du bruit, qui produit un son. D'accord? Le fait de rigoler avec un son. Donc le fait... Parce que des fois, on se retient, mais hein, la poitrine, elle rigole, mais ça ne produit pas de son. Ça annule pas la prière dans ce cas-là. C'est détestable, bien sûr, même si des fois, yani, c'est involontaire, des fois, c'est incontrôlable. Il faut essayer de se contrôler dans tous les cas. Taïe, quoi encore? Ça fait un.
Parler volontairement.
Ahsant. Al-kalamu amdan. Al-kalamu amdan yubtilu salah. Le fait de parler volontairement. Quoi encore?
Les gestes successifs. C'est genre...
Ouais, les gestes successifs, qu'est-ce qui manque comme précision? Non, Mohamed.
Sans nécessité.
Sans nécessité, bien sûr. Quoi encore? Voilà. Kefira. Nombreux. On avait dit qu'il fallait trois conditions pour que le geste où les gestes annulent la prière. D'accord? Il faut qu'il soit... Naam, sans condition, barakallahu fik. Ça, c'est une des conditions. Le fait que le geste soit fait sans nécessité, pardon. Sans nécessité. C'est ça que tu avais dit, non? Voilà. Sans nécessité, sans besoin. Deuxièmement, que ces gestes-là soient nombreux. D'accord? Et troisièmement, qu'ils soient successifs, comme tu as dit. D'accord? Donc là, on a les trois qui font que le geste annule la prière. إذن الحركة الكثيرة المتواصلة من غير ضرورة طيب المتواصلة أو المتوالية كما قال الشيخ المتوالية لغير ضرورة ça fait trois c'est ça quoi encore il en manque
de laisser un pilier, une condition volontairement, une obligation volontairement.
Le pilier, les conditions. Faut que tu fasses la différence, la distinction entre le pilier et la condition et entre l'obligation, parce qu'elles ne sont pas sujets aux mêmes règles. Donc d'abord, commence par le pilier et la condition.
Son délaissement.
Le délaissement, voilà, dans tous les cas. Le délaissement dans tous les cas. D'une condition ou d'un pilier annule la prière. Dans tous les cas, volontaire ou pas volontaire. C'est bon? Et donc, dernière chose qui annule?
Le délaissement des obligations volontairement.
Volontairement. Le fait de délaisser une obligation de la prière volontairement. Donc, celui qui la délaisse involontairement, ça n'annule pas la prière. Ça y est? Donc, en tout, ça fait combien? Cinq. Cinq choses qui annulent la prière. Ça y est? Thuma, on est rentré dans les... choses qui sont détestables, mais donc qui annulent pas la prière, mais qui vont la diminuer, qui vont la diminuer. On a cité quoi pour l'instant? Jusqu'ici on a cité Akhi. En arabe, comment on dit? El iltifatu. El iltifatu. El iltifat fi salat. Le fait de se désorienter de l'qibla. D'accord? Mais c'est quoi qui va... C'est quelle désorientation qui va annuler la prière exactement? Non? Ouais. Vas-y, vas-y, Arki, vas-y. C'est-à-dire? Il faut une précision. Anis, c'est quoi la précision qu'on avait donnée? Je ne sais pas si tu as écouté le dars, c'est l'audio. C'est le dernier, non? Voilà. الالتفات بالجسد أو بالبدن كله بالبدن كله طيب إلى غير استقبال القبلة فهذا يبطل الصلاة le fait de dévier de la qibla avec tout son corps c'est ça qu'il faut préciser الالتفات avec tout son corps أما الالتفات بالوجه فقط هل يبطل الصلاة لا لا يبطل الصلاة Le fait de dévier de la qibla seulement avec le visage, ça n'annule pas la prière. Si c'est fait sans besoin, ça peut la diminuer. D'accord? Mais dans tous les cas, ça n'annule pas. Tant que le corps, lui, reste face à la qibla. Et la troisième sorte d'iltifat, vous vous rappelez, c'est quoi? Avec le cœur. Iltifat bil qalb. Ton corps et ton visage sont vers la qibla, mais ton cœur, il est vers... il est vers ton commerce ou il est vers autre chose. هذا كذلك لا ينبغي وينقص الصلاة يديمينيو لا بريير également et les ulama disent rares sont ceux qui sont vraiment à l'abri de ça ne serait-ce qu'un petit moment pendant la prière hein c'est difficile mais dans tous les cas يجاهد نفسه il doit lutter contre quand ça lui arrive il doit combattre son nefs d'accord après, il y en a cité d'autres ou pas? Al-Abath. Oui, il y en a cité Al-Abath.
Alaykoum salam.
On a cité Al-Abath. Al-Abath, pardon. Donc, Al-Abath, tout ce qui est fait sans utilité. Tout ce qui est fait sans utilité. Regarder sa montre, hein, jouer avec sa barbe, jouer avec ceci, cela. ça rentre dans Al-Abath. Tout ce qui ne sert à rien hein, et qui ne comporte aucune. Nécessité. Ensuite, on a cité Mejdid. Qu'est-ce qu'on a cité? Makruhat. Détestable. Azdin.
Détestable.
Comment? Ahsant. Anam. Tashbik al-asabi'. Tashbik al-asabi'. Le fait de croiser les doigts en prière annule pas la prière. Mais ça diminue. Ça diminue. En fait, ce n'est pas seulement en prière. Mais c'est depuis que tu sors de chez toi, que tu as fait le wudu, jusqu'à ce que tu finisses la prière, c'est détestable de croiser les doigts, de faire ça. Hada makro. Hada makro. Pas seulement dans la prière, mais dès que tu as fait le wudu, pour aller prier, d'accord? Tu es sorti de chez toi, et bien à partir de là, de ce moment-là, c'est détestable de croiser les doigts, comme ça. Jusqu'à la fin de la prière. Une fois que tu es sorti de prière, c'est plus détestable. C'est bon? Ça fait trois. C'était... Encore, il y en a encore. Ensuite. Ahsant. Wa farqa'atuha. En arabe, on dit al-farqa'a. Al-farqa'a, faire craquer ses doigts. Hein, le fait de faire craquer ses doigts, bien sûr, c'est détestable. C'est farqa'a. Ça fait quatre, encore.
Sa main devant, non,
si. Mettre ses mains devant. Toi, tu parles, en fait, ouais, tu parles de El-Iqa'a, Ahsant. El-Iqa'a, le fait de s'asseoir, yani, comme le chien. En arabe, on dit El-Iqa'a'u. D'accord? Cette assise-là, elle est détestable pendant la prière. Mais ça n'annule pas la prière. Ça n'annule pas. Ça fait 5. Hakda? Un dernier, je crois. On a cité un dernier aussi. Un sixième, on a cité. Wad'u al-yad ala al-khasira. Le fait de mettre les mains à la taille comme ça. Une main comme ça, une main comme ça. Hein? Ça c'est makrouh kadhalik. Non, le Yahoud dans le hadith. Le Yahoud, le prophète il a dit ça. C'est interdit
de faire en dehors de la prière aussi.
Allahu alam, là c'est que pour la prière. Parce qu'on doit la prière, Allahu alam. Là, je ne sais pas. Pour l'instant, on a cité 6. Il y en a encore, hein? On n'a pas fini encore. Bon? Alors on répète si tu veux, Inch'Allah. El iltifat ou fi salat. El iltifat bi el badani kulli. بالبدن كله هذا والالتفات المحرم ثم ذكرنا العبث كل ما يدخل في العبث بون ثم وضع اليد على الخاصرة وهو وسط البدن الخاصرة ثم تشبيك الأصابع تشبيك الأصابع خلاص ثم فرقعتها Le fait de faire craquer, farqa'atuha. ثم يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب. طيب؟ ست. ست مكروهات. نعم. نعم؟ على خاصرة. نعم. ذكرنا. طيب. السابع. يقول الشيخ وأن يستقبل ما يلهيه. أي يستقبل أن تصلي مستقبل ما يلهيك ما معنى هذا أي ما يشغله عن الخشوع في الصلاة هذا يكره وذلك كالنقوش النقوش الصور وزخارف ونحوها فعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا أي أزيلي أزيلي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام صلى في خميصة فيها أو لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أخرجه البخاري ومسلم
Donc la septième chose détestable dans la prière mentionnée ici, le fait que le prieur prie en direction d'une chose qui va le distraire. Il prie devant lui, il y a quelque chose qui le distrait. Soit devant lui, soit sur lui. Ou par terre, par exemple, à l'endroit où il prie. D'ailleurs, parce que cela donc va le distraire et va l'éloigner de la chose qui est demandée en prière, qui est le khushu'. Qui est le khushu'. Donc cela va perturber son khushu'. D'accord ? On avait dit que le khushu'. Comme il a dit Ibn Abbas, خائف أن يكون المصلي خائفا ساكنا. أن يكون في صلاته خائفا ساكنا. Ibn Abbas, il a dit le khushu, celui qui fait preuve de khushu في salat, c'est-à-dire qu'il est craintif dans sa prière devant Allah, et en même temps il est apaisé. Il est craintif et apaisé. D'accord ? Et Ali, il a dit le khushu. Le khushu, c'est quand le cœur il est présent. C'est ça le khushu. Le cœur il est présent, il est attentif, il n'est pas distrait par quoi que ce soit. Donc si tu te mets devant quelque chose, ou si tu pries sur un endroit où il y a des choses qui vont te distraire, cela forcément, ça va perturber ton khushu', tel que dit le cheikh, an-nuqush, c'est-à-dire tout ce qui est, qui a des formes, hein, des dessins, des symboles, ou des fois on voit des tapis, hein, qui ont des formes, des couleurs, des fleurs, des ci, des ça. Et subhanallah, des fois le cerveau, il te joue des tours. Le cerveau, tu es là, tu regardes, et tu imagines des formes animales, des têtes d'animaux et tout. Et non, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc, je pense que ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que les ulama, ils disent que les tapis, il faut qu'ils soient d'une couleur unie. D'une couleur unie, ou non, et même au niveau de la couleur, c'est mieux. La couleur, il y a ni sable, ou, hein, pas trop flashy, comme on dit. Voilà, mashallah. Ou alors, de ne pas prier devant des décors trop somptueux, trop beaux, trop étincelants, hein, trop bling-bling, comme ils disent. C'est vrai, des fois, tu vas dans des mosquées, c'est tellement beau que quand tu es en prière, eh ben, tu n'es pas bien concentré. Tu es déconcentré, tu es perturbé par la beauté de la mosquée, tu vois. Hein, Mohamed ? Raïta hada fait ? Zahari, fait hada ? Hein ? Inch'Allah. Pourquoi ils font ça?
Je sais pas. Avant de prier, ils posent des bancs pour prier, ça ne gère pas. Les lunettes, des fois, il y a beaucoup de trucs. Des fois.
Ouais, c'est clair que ça peut les distraire, bien sûr. Ça peut les distraire. Donc c'est détestable le fait de prier devant quelque chose qui peut te distraire, qui va te faire penser à d'autres choses.
Si tu es à côté, tu peux le dire dans la
vie. Dans Macron. Ouais, tu peux le conseiller, bien sûr. Tu peux le conseiller. Donc. En vertu du hadith d'Anas qui a dit que Aïcha radiallahu anha, elle avait chez elle ce qu'on appelle un qiram. Qiram, c'est un rideau, d'accord, c'était un rideau ou un genre de double rideau, d'accord, avec lequel elle décorait un côté de sa maison, soit un mur ou une porte ou autre, d'accord. Et ce rideau là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, enlève de notre vue ce rideau, car je n'ai cessé de penser à lui pendant la prière. Il y a une, l'image de ce rideau-là qui devait être une, très beau, il y avait peut-être des formes, etc., etc. Il y a une, le perturber pendant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a ordonné à son épouse de l'enlever. D'accord. Et également le hadith d'Aïcha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a prié dans un vêtement qu'on appelle khamisa. Khamisa, c'était un vêtement donc la a'lam, qui avait des formes, d'accord, qui avait des formes et des choses sur ce vêtement là, d'accord. Et le prophète, il a, en fait c'était un cadeau qu'on lui avait fait, d'accord, c'était un cadeau que un compagnon qui s'appelle Abu Jahm lui avait offert. Et quand il a vu que ça le perturbait, même pendant sa prière, pendant qu'il priait, et qu'il avait cet habit-là sur lui, eh bien, il a dit, prenez ce khamisa, prenez-le, et rendez-le à Abu Jahm. Rendez-le lui. Il rendait son cadeau, mais pour ne pas le vexer, il a dit à ses compagnons, mais prenez un autre cadeau de sa part. Il a dit, wa'touni, Bi'anbijaniya, c'est un autre style de vêtement encore, mais voilà, qui ne comporte pas ni de forme, ni rien du tout. D'accord ? Donc pour ne pas vexer le compagnon, il a dit, mais prenez à la place ce vêtement-là. En gros, Yanni, j'accepte de lui un présent, mais par contre, Khamisa, je ne peux pas. D'accord ? Taïb. Parce qu'il a dit, fa'innaha al-hatni anifan anisala. Parce que ce Khamisa-là, il m'a perturbé yani, précédemment en prière. Quand j'étais en prière, il m'a perturbé. D'accord ? Et naam, subhanallah. Taïb. Al-thamin. Ayadkhula fiha wa qalbuhu mushtaghilun bi mudafa'atil akhbathayn.
بمدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام. إذن هذا هو المكروه الثامن. وقد نقول كذلك المكروه الثامن هو مدافعة الأخبثين، والتاسع بحضرة الطعام. قد نفرق بينهما الحمد لله كما فعل بعض أهل العلم. يقول الشيخ: الأخبثان هما البول والغائط. الأخبثان البول والغائط، لأن دخوله وهو يدافعهما يذهب الخشوع، يذهب الخشوع. وليس المراد بالمدافعة الإحساس بهما، لا، ليس الإحساس، وإنما المراد أن يكون الأخبثان يدفعانه للخروج. الأخبثان يدفعانه، يعني يدفعان المصلي للخروج عن الصلاة، وهو يدفعهما للبقاء. أنت في الصلاة والغائط أو البول ماذا؟ يدفعانك للخروج وأنت تدفعهما للبقاء. هذا مكروه، هذا مكروه. طيب، نعم. 8e chose détestable dans la prière: le fait d'entrer en prière alors que ton cœur il est distrait déjà. Avant même d'entrer en prière, ton cœur il est déjà occupé à lutter, ce qu'on appelle, à retenir les deux herbeth. Donc les deux herbeth, c'est l'urine et l'excrément. Akramakumullah. D'accord ? Ça, c'est les deux herbeth. Donc avant même d'entrer en prière, tu es déjà en train de te retenir. Hada makruh. Ça, c'est détestable. D'accord ? Même si tu rates takbirat al-ihram, il vaut mieux que yani, tu te soulages, tu fais le wudu et après tu rentres en prière. Avec al-jama'a. Taïeb ? Non. Ou alors en présence de la nourriture. D'accord ? En présence de la nourriture, c'est-à-dire lorsque la nourriture est présente devant toi, elle a été servie, elle est chaude, etc. Et tu en as envie. Tu en as envie. Et tu sais qu'en allant prier, ton cœur, il va penser à ça. Dans ce cas-là, c'est détestable aussi. Les ulama, ils disent, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la salata bi hadrati ta'am. Subhanallah. Ça veut dire, dans ce cas-là, ça sera mieux pour toi de rater le jama'a. C'est mieux pour toi. Par contre, si tu sais que tu ne vas pas y penser du tout, tu n'as pas faim, tu ne vas pas y penser, dans ce cas-là, c'est mieux d'aller à Jama'a. Donc, ça dépend de ta situation en ce moment-là. D'accord ? Donc, il dit ici, Al-Akhbathan, c'est l'urine et les excréments. Parce que le fait de rentrer en prière, alors que tu es en train déjà de les contenir, eh bien, cela diminue et fait partir aussi le khushu'a. Comment tu peux te concentrer de manière totale, alors que tu es en train de retenir quelque chose de ton corps? Et ce n'est pas seulement juste le fait de ressentir une envie, d'accord? C'est, ce qui est voulu ici, c'est que ces deux choses-là, ils vont te pousser à sortir de la prière. Alors que toi, au contraire, tu vas les repousser pour rester en prière. Yani, tu vas lutter contre eux pendant ta prière. D'accord? وَهَذَا يُكْرَهُ. C'est détestable. D'accord ? لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا صَلَاةَ بِحَضَّرَةِ طَعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أخرجه بهذا اللفظ مسلم والبخاري بنحوه. Donc la preuve c'est quoi ? Le hadith du Nabi صلى الله عليه وسلم: pas de prière en présence de la nourriture. Pas de prière en présence de nourriture. C'est-à-dire lorsque la nourriture elle a été présentée à table devant toi. D'accord ? Et que tu en as envie, que ton cœur il en a envie. Dans ce cas-là, pas de prière. C'est-à-dire que si tu pries, ta prière, elle va être diminuée. D'accord ? Elle va diminuer.
J'ai deux questions. Pour les deux sorties, là, si l'heure elle va sortir, tu sais qu'elle va sortir. Et si tu te retiens, tu peux faire la prière. Tu fais la prière ou tu vas comme...
Non, tu fais la prière. Là, tu fais la prière, tu ne laisses pas l'heure sortir. D'accord ? Parce que là, il y a un... Certes, tu auras fait une chose qui peut être détestable, mais tu auras évité aussi un interdit qui est le fait de faire sortir la prière. C'est pour ça qu'il faut s'empresser à faire la prière. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Je ne sais pas ce qui peut t'arriver au dernier moment. Il faut faire la prière le plus tôt possible. Dès que l'heure elle rentre, tu l'as fait. D'accord ? Excepté Yanni, on avait dit pour l'Isha et Dhuhr. D'accord ? Ça, c'est spécial. Sinon, là-bas, c'est que l'on fait la prière au début de son heure. Au début de son heure. Taïe. Puis il a dit, le prophète, dans le même hadith, « Wala wa huwa yudafi'uhu l'akhbathan » Donc, non plus lorsque la nourriture elle est servie, et également lorsque les deux akhbath sont en train de le pousser à se soulager, et lui, il se retient et il rentre en prière.
Pour la nourriture, quand elle est servie, si on a très envie, ça rentre dans le ramadan. Tu es chez toi, si c'est servi, tu as faim.
Ouais, tu manges. Tu manges, bien sûr.
Avant Maroc. Tu n'es pas Maroc avant le coup.
Mais normalement, tu vas à la mosquée. Normalement, tu fais l'iftar fait le masjid. Tu fais le masjid. Donc, tu seras à la mosquée normalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais si par contre tu vas pas à la mosquée et que on t'a servi et que tu as vraiment faim, tu manges ce dont tu as besoin et après tu pries le maghrib. Mais comme tu seras à la mosquée, normalement tu auras tes dates et tout ce qu'il faut à la mosquée. Le problème,
c'est que tout à l'heure, j'avais pas fini ma prolongation, j'avais envie de finir la neige de côté ou de la terminer.
C'est pareil. Si tu sais que pendant la prière tu vas y penser, tu manges, hein, mange. Mange la salade avec hadar et ta'am. La salade avec hadar et ta'am. Tant que ce n'est pas volontaire, tant que tu n'as pas fait exprès de sortir le gâteau là, à ce moment-là, hein, dans le but de. Non. Mais si c'est comme on dit, fortuit, c'est occasionnel, c'est comme ça, tac. Dans ce cas-là, ça dépend. Si ton esprit est attaché à cette nourriture-là, mange dont tu as besoin. D'accord ? Des fois, il suffit de 2-3 bouchées, après tu vas en prière. Demain. التاسع أو العاشر طيب المكروه التاسع أو العاشر إن قلنا إن حضرة الطعام هو العاشر التاسع والعاشر فالعاشر هو قال المؤلف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود أن يفترش ذراعيه في السجود كما فعل الكلب أو السبوع مثلا أيوة من أين هذا يوم الاثنين في لافات كم صح وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كان ينهى عن عقبة الشيطان كان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوع افتراش السبوع وفي رواية افتراش الكلب طيب أخرجه مسلم فالمصلي مأمور أن يكون سجوده على الكف لا على الذراع السجود يكون على الكف لا على الذراع ففرش الذراعين حال السجود مكروه donc 9e ou 10e donc 10e si on dit que la nourriture c'est le 9e donc ici 10e le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc c'est l'interdiction le revêt du détestable et pas du tahrim mais de plutôt al-karahiya le fait que la personne lorsque elle est en prière, en soujoud plutôt, en prosternation, elle étale ses bras par terre. Elle étale ses bras comme ça par terre. Et bien cela est détestable, hein, par rapport à la ressemblance à l'animal et surtout au chien ou à toute la race, il y a des chiens, c'est-à-dire les canins ou les fauves tels que les lions, etc. Hein? Et certains ulama disent parce que cela fait que la personne a tendance à aussi à s'endormir aussi. Quand tu es comme ça, on dirait que tu as tendance à t'endormir, hein, ou à penser à autre chose, ou à partir dans des pensées. Vous voyez ? Al-Muhim, il dit le Cheikh, Rahimallah wa Hafidha, et cela en vertu du hadith d'Aïcha, radiallahu anha, quand elle a décrit la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que le prophète a interdit, premièrement, Uqbatu Shaytan. Donc, Uqbatu Shaytan, en fait, c'est l'assise de Shaytan. C'est-à-dire l'assise de Shaytan, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Iqa'a. Al-Iqa'a. Il y a des ulama, ils l'ont défini comme étant, comme on l'a défini pour Al-Iqa'a, pour le chien. C'est la même assise. C'est-à-dire les fesses par terre, les genoux en l'air et les jambes, hein, redressées à la verticale. Vous voyez ? Il y en a même qui, à une certaine époque, ils prenaient une ceinture, par exemple, et ils s'entouraient le corps comme ça, d'accord ? Ils s'attachaient en fait les jambes contre leur ventre, taillé, pour justement ne pas bouger et rester comme ça, hein, immobile, en attendant la prière suivante. Ils faisaient ça dans la mosquée. Est-ce que vous voyez à peu près la position ? C'est bon ? Donc ça, c'est détestable. C'est ma cour. Non, là, il dit pendant la salat. Là, c'est pendant la salat. D'accord ? Là, c'est pendant la salat. Non. Donc, il a interdit ça. Il a interdit également d'étaler ses avant-bras fis soujoud. Akada. Étaler ses bras fis soujoud, comme le fait le lion, le prédateur, et ainsi de suite. Donc, le musalli, celui qui prie, donc, il doit se prosterner sur la paume de ses mains. Sur la paume de ses mains, Hakada. Et au contraire, il doit écarter ses avant-bras, de les écarter de son corps, Hadi Sunnah. Donc il ne doit pas les étaler par terre, comme le feraient, comme le font certains. Non, cela est détestable. Cela est détestable. Donc là, c'est les 10 choses détestables qu'il a citées. Mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que ces choses-là, en vérité. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quelques exemples qu'a mentionné le Cheikh. الحمد لله ننتقل إلى باب صلاة التطوع. صلاة التطوع. ما معنى التطوع؟ هو ما تبرع به الإنسان. ما تبرع به الإنسان من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه. طيب. Donc on passe au chapitre suivant, qui est celui de la prière qu'on appelle At-Tatawwu'. Donc retenez bien ce terme pour ceux qui ne le connaissaient pas. La prière At-Tatawwu'. Qui est en fait la prière facultative. La prière facultative ou recommandée. D'accord ? Donc At-Tatawwu'. Ce terme-là, il englobe tout ce que la personne va faire de manière totalement volontaire. Parmi les choses qui sont à la base non obligatoires. D'accord ? C'est une chose que la personne va faire de manière volontaire et qui n'est pas à la base obligatoire. Qui n'est pas obligatoire, tout simplement. Donc, le tatawwu concerne non seulement la prière, mais aussi le sadaqat, les aumônes, le siyam, etc., etc. Taïb, c'est pas spécifique. Ce terme-là, hein, n'est pas spécifique à la salat. Taïb. Thumma yaqul wa akaduha salatul kusuf. Salatu al-kusuf. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'alaha wa amara biha. Donc, il dit as-salat min at-tatawwu' Akaduha. C'est-à-dire que parmi les prières recommandées, celle qui est la plus fortement recommandée, ou Akaduha, qui a été le plus recommandée et pour laquelle le prophète il a le plus insisté. Il dit Salatul Kusuf, la prière de l'éclipse. La prière de l'éclipse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours faite et a ordonné que ses compagnons la fassent. طيب اذا بدا هنا المؤلف في ذكر التتوع من الصلوات فبدا بصلاه الكسوف لماذا لامور الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها في حديث عائشه رضي الله عنها المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا هذا أمر donc ici l'auteur رحمه الله تعالى il commence à mentionner les choses recommandées parmi ou les prières recommandées. Il a commencé par la prière de l'éclipse. Pour quelle raison? Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de manière explicite, et cela dans le hadith d'Aïcha, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous la voyez, invoquez Allah, glorifiez-le, priez et faites des aumônes. Et faites des aumônes. Donc lorsque tu vois une éclipse et que tu témoignes d'une éclipse, bien sûr, il est bien de prier avec le jama'a, il est bien d'invoquer Allah, il est bien de glorifier Allah, il est bien de faire des aumônes, beaucoup d'aumônes. Alhamdulillah. Al-amr thani, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yatrukha 'inda wujud sababiha. Deuxièmement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Il ne l'a jamais délaissé lorsque, bien sûr, il a été témoin de l'éclipse. D'accord. Al-amr al-thalif, annaha ay salat al-kusuf, ibadatun mahdha, bi khilaf al-istisqa, bi khilaf salati al-istisqa. Fafi salat al-istisqa, talab al-risq, wa talab al-matar. Amma, Salatul Kusuf, fahiya ibarat mahdha. Troisième chose est que la prière de l'éclipse, c'est une pure adoration. Contrairement, par exemple, à la prière de la demande de la pluie, al-istisqa. Donc la prière de la demande de la pluie, lorsque tu la fais, certes, c'est une ibada, mais tu demandes quelque chose à travers elle, tu demandes la pluie. Tu demandes le risque, qui fait partie donc des choses de la dunya. Alors que Salatul Kusuf de l'éclipse est une adoration pure. Il n'y a pas de demande de la dunya, il n'y a rien. Même si tu as le droit d'invoquer dedans, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais à la base, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour demander quelque chose. Comme Al-Istisqa. Al-Amr al-Rabi' li'annaha ibadah mujma'un alayha. Quatrième chose aussi. Et que la prière de l'éclipse, il y a unanimité chez les savants. Il y a consensus des savants sur son statut, yani, soit recommandé. Certains disent même que la prière de l'éclipse, elle est obligatoire. D'accord ? Lakin al-rajih, annaha mustahabba, wa annaha sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada. D'accord. Il faut savoir que lorsqu'on dit sunna mu'akkada, c'est pas comme si on disait sunna. Tu as des choses qui sont sunna et tu as des choses qui sont sunna mu'akkada. C'est quoi la différence? entre les deux. Non. Une sunna, même si elle est mu'akkada, ça reste facultatif. Donc si tu ne la fais pas, tu n'es pas châtié. Parce que la chose que tu délaisses et que tu peux être châtié à cause de ça, c'est les choses obligatoires, c'est l'obligation ça. T'as compris ou pas? Mais tout ce qui est facultatif, sunna, mustahabba, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de iqab, tu n'as pas de châtiment. Sinon, c'est plus une sunna, sinon c'est une obligation. Non, tu n'as pas compris.
Non, oui, j'ai compris. Mais il existe des sunnas obligatoires.
Ça rentre dans l'obligation dans ce cas-là. Ça rentre dans l'obligation. Mais comme on est dans le domaine du firq, quand on dit sunna, ça veut dire mustahabba. T'as vu ? Là, on ne fera pas de différence entre la sunna wajiba et la sunna mustahabba. Dans le domaine du firq, lorsqu'on dit sunna, c'est mustahabba. D'accord ? Mais c'est vrai que si tu changes de domaine, il se peut qu'il y ait d'autres lexiques et d'autres termes techniques. Mais là, c'est sunna, c'est facultatif. Donc si tu délaisses quelque chose de facultatif, même si elle est mu'akkada, tu n'as rien. Tu n'as pas d'iqa. Mais c'est quoi alors la différence entre mu'akkada et pas mu'akkada, Mohamed ?
Est-ce que le professeur Hassan n'a jamais délaissé ?
Hassan. Non. Une sunna mu'akkada, le prophète ne l'a jamais délaissé. Alors qu'une sunna, il se peut qu'il ahyanan turkuha. Ahyanan taraka wa ahyanan fa'alaha. Une sunna qui n'est pas mu'akkada, le prophète, il se peut que pendant un moment il les a fait, et puis un autre moment il ne les a pas fait. Tel que, il y a une salat al-duha. Salat al-duha, mathalan, c'est une sunna, elle n'est pas mu'akkada. Pourquoi ? Parce qu'il n'a il a pas été rapporté comme quoi il n'a jamais délaissé. Il la faisait de temps en temps, il la faisait, et pas tout le temps. Alors que salat, mathalan, salat al-witr, al-witr, sunna mu'akkada, parce qu'il n'a jamais délaissé. Hein ? Non, rawatib, fils safar. Il ne faisait pas fils safar. Mais Allah wa'alam. Après, il faut voir si les ulama, ils les ont quand même mis dans al-mu'akkadat, Allah wa'alam. Mais par exemple, sunnat al-witr, on dit sunna mu'akkada. Que le prophète, il n'a jamais délaissé, ni en voyage, ni quand il était résident. D'accord ? C'est ça la différence entre mu'akkada et pas mu'akkada. Mais dans tous les cas, si tu la délaisses, tu n'as pas de péché. D'accord ? الأمر الخامس لأنه يشرع لها الجماعة. Et cinquième raison pour laquelle il a cité en premier Salat al-Kusuf, le fait qu'il est légiféré de la faire en groupe. Donc ces cinq raisons-là font que l'auteur l'a cité en premier. L'a cité en premier parmi les prières facultatives et recommandées. D'ailleurs. Naam. Yaqul, akadu salat at-tatawwu' hiya salat al-kusuf. Akadu salat at-tatawwu'. Wal-kusuf huwa inmihaq nur ash-shams aw daw' al-qamar. انمحاق نور الشمس أو ضوء القمر في وقت مخصوص ويسمى كسوفا وخسوفا تقول كسوف وتقول خسوف كلاهما صحيح نفس الشيء كسوف الخسوف وهي السنة مؤكدة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها كما قلنا فعلها فلم يتركها وأمر بها كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. Donc il dit la prière facultative la plus recommandée, la plus fortement recommandée, c'est la prière de l'éclipse. Donc el-kusuf, le terme el-kusuf, ça désigne la diminution ou la disparition de la lumière du soleil ou alaykoum assalam. La lumière du soleil ou la lueur de la lune. La lumière du soleil ou la lueur de la lune.
Donc, lorsque la lumière du soleil, elle est cachée par, hein, par quoi? Par la lune. Ou lorsque la lune, elle est cachée justement par l'ombre de la terre. Hakada. Hakada. Hana. L'éclipse. L'éclipse. Donc en arabe, on peut dire El Kousouf et on dit également El Khousouf. El Khousouf ou El Kousouf. On peut dire les deux. D'accord? Et vous remarquerez ici qu'on dit Nour Shems, mais on ne dit pas Nour El Qamar. On ne dit pas Nour El Qamar. Daw El Qamar. Daw El Qamar ou Nour Shems. On ne dit pas Nour El Qamar. Pourquoi? Hmm? Non. Premièrement, par rapport au côté brûlant du soleil. Nour, c'est brûlant. D'accord? Alors que Daou, c'est pas forcément brûlant. Et également parce que Nour, c'est une lumière qui est d'origine. D'origine, la lumière du soleil, elle est d'origine. Alors que la lumière de la lune, elle vient pas de la lune en fait. Elle vient pas de la lune, elle est pas d'origine. Elle vient d'autre chose. D'accord? Par exemple, toi, tu te mises sous la lampe. On ne va pas dire Nour. Nour Malik. Daou Malik. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, elle ne vient pas de toi. Elle vient de la lampe là, qui est au-dessus de toi. Ce n'est pas une lumière d'origine. D'accord? C'est bon, Ikhwan? Non. Donc, c'est une sunna mu'akkada. Ayo?
Sir. Il y a ta main qui a caché tes lèvres, je n'ai pas compris.
Ah, t'as pas compris?
Ouais,
t'as compris pour la différence entre Daou et Shams et Nour? Enfin, c'est bon. Donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait et ne l'a jamais délaissé. Comme dans le hadith donc, de Ibn Mas'ud al-Ansari, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Naam, avec ou par lesquels Allah tabarak wa ta'ala intimide ses créatures, d'accord, intimide ses créatures, et ces deux-là, le soleil et la lune, ne disparaissent jamais pour la mort de qui que ce soit parmi les êtres humains. Pourquoi il a dit ça? Parce que certains Arabes, lorsque son fils Ibrahim, Ibrahim, le fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, il y a eu une éclipse. Donc ça a coïncidé avec une éclipse. Donc ils ont prétendu que le soleil ou la lune s'était caché pour la mort d'Ibrahim. D'accord? C'est pour ça ici il a dit La yankasifan li mawti ahadin min an-nas. D'accord? Le soleil et la lune ne se cachent pour la mort de personne. Donc lorsque vous voyez l'éclipse, priez, invoquez Allah jusqu'à ce que le soleil ou la lune réapparaissent. Donc ici, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا. Lorsque vous la voyez, ça veut dire que celui qui ne la voit pas, il n'a pas à prier l'éclipse, la prière de l'éclipse. D'accord? Des fois, par exemple, les infos, ils annoncent l'éclipse tel jour, telle heure. Tel jour, telle heure. Mais il arrive que là où tu es, il n'y a pas d'éclipse, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as pris parce que à la télé, ils l'ont montré? Non, il faut que tu la voies, toi, de tes yeux, là où tu es. Eh oui, bien sûr. Sinon, tu ne pries pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, فَإِذَا رَأَيْتُمْ. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا رَأَيْتُمْ. Lorsque vous la voyez.
Si un frère de confiance, il l'a vu, et il vient, il fait la prière de l'éclipse.
Alhamdoulilah. Non, c'est bon. S'il y a un témoignage, il te dit là, à Marseille, on l'a vu. Alhamdoulilah. Ça y est.
On peut en avoir un live sur le téléphone.
Ou à l'endroit où tu es.
C'est pas diffusé de là où je suis.
Mais non, si elle est au Japon, frère, tu vas pas la prier. Mais non, c'est là l'endroit où tu es, toi.
La sunna, c'est de prier jusqu'à la réapparition. Donc, en fait, il faut être dehors, en fait.
peux. Après, si tu le fais à la mosquée, ben, là, tu fais, tu pries, tu vois. Tu pries des longues sourates, même si tu finis avant. Khaleb, tu vois. D'ailleurs, la sunna, de toute façon, c'est de la faire longue. Comme on va le voir, bien évidemment. ثم يقول وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين يضحك ذلك فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات كيف 4 ركعات في ركعتين ما معنى هذا 4 ركعات في ركعتين سنرى إن شاء الله متفق عليه يقول الحديث أخرجه البخاري ومسلم وصلاة الكسوف ركعتان صلاة الكسوف ركعتان فيها بارك الله فيك فيها 4 ركوعات 4 ركوعات في ركعتين إذن ركوعان في ركعة وصفتها أن يقرأ الفاتحة وصورة طاولة جهرا الفاتحة وصورة طويلة وجهرا ثم يركع ركوعا طويلا حتى في الركوع ثم يرفع فيسمع ويحمد أي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقرأ الفاتحة وصورة طويلة تكون أقل من الأولى طيب إذن تقرأ الفاتحة صورة طويلة تركع ترفع تسمع تحمد ثم تقرأ مرة ثانية الفاتحة وصورة طويلة لكن أقل من الأولى طيب ثم يركع ركوعا ثانيا طويلا أخف من ركوعه الأول ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد ويدعو ثم يسجد سجودا طويلا ثم يعتدل ثم يسجد سجودا طويلا لكن أخف من الأول ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالركعة الأولى لكن تكون أخف منها ثم يتشهد ويسلم هكذا تصلى صلاة الكسوف ويدل على هذه الصفة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات الحديث أخرجه مسلم ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله وقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله في دي la prière de الكسوف elle s'exécute comme l'a décrite عائشة رضي الله عنها qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il récitait à voix haute dans cette prière,
et il faisait 4 inclinaisons dans 2 unités. Donc dans les 2 unités, il faisait en tout 4 inclinaisons. D'accord ? Et 4 prosternations. Donc ça fait 2 inclinaisons par raka'a. Et 2 prosternations par raka'a, comme d'habitude. Donc le hadith, muttafaqun alayh, la prière d'El Koussouf, donc, se fait par 2 unités. En faisant 2 unités, et il y a en tout 4 inclinaisons. C'est-à-dire, la personne, bien sûr, le takbir, l'ihram, elle récite surat al-Fatiha, et après elle, une longue surat. Une longue surat. À voix haute. Puis, elle s'incline. Et elle reste longtemps en inclinaison aussi. Il faut savoir que tout ce qui est fait pendant cette prière-là, eh bien, la personne doit rester longtemps à le faire. D'accord ? Donc, elle s'incline longuement, puis elle se relève, bien sûr, en faisant « Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd » et elle récite encore « Surat al-Fatiha ». Donc, normalement, dans une prière normale, qu'est-ce qu'on fait ? On se prosterne. D'accord ? Là, non. On reste debout et on récite encore surat al-Fatiha avec une autre longue surat. Mais moins longue que la première. D'accord ? Moins longue que la première. Puis, tu t'inclines encore. D'une longue inclinaison, mais moins longue que la première. D'accord ? Puis, tu te relèves. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et tu te prosternes. Là, tu descends pour la prosternation, mais d'une longue prosternation. Une fois que c'est fait, tu t'assois et tu te reprosternes encore d'une longue prosternation, mais moins longue que la première. Puis, une fois que c'est fait, tu te relèves pour la deuxième raka'a et tu fais pareil. C'est bon, une fois ? Sauf que la deuxième, tout ce que tu fais doit être moins long que dans la première. Subhanallah. D'accord ? Puis tu fais ta shahoud et tu fais le salam. C'est bon, ikhwan ? Hadha hiya salatu al-kusuf.
Quand on s'incline, on fait les
doigts,
c'est ça ?
Comme d'habitude. Comme ce que tu fais dans la prière normale. Puis on a le hadith aussi de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui a dit: lorsque le soleil disparaissait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait très chaud, donc pendant la journée, alors qu'il faisait très chaud, le soleil donc s'est éclipsé. Le prophète a donc dirigé la prière pour ses compagnons. Et il est resté longtemps debout. C'est-à-dire, pendant la récitation, il est resté longtemps. C'est-à-dire qu'il a récité une sourate longue. Puis il s'est incliné. Il est resté longuement. Puis il s'est relevé. Et il est resté longuement aussi debout. D'accord ? Donc même après l'inclinaison, « Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd », il est resté longtemps debout comme ça. D'accord ? Puis il s'inclinait il récitait le Coran, donc il restait longtemps debout, normal. Puis il s'inclinait une deuxième fois et il est resté aussi longtemps durant la deuxième inclinaison et il s'est relevé et il est resté longtemps en inclinaison, en position debout. Puis il s'est prosterné, il a fait les deux sujoud. D'accord ? Il a fait les deux sujoud et après il s'est relevé. Et la deuxième raka'a, il a fait exactement pareil que dans la première, sauf que comme on a dit, la deuxième, elle était plus courte que la première dans tout ce qu'il faisait. Et enfin, le temps de cette prière-là, eh bien, c'est le début de l'kousouf. Dès que l'éclipse commence, jusqu'à ce que ça termine. Donc une fois qu'elle est terminée, il n'y a plus de prière de El Koussouf.
D'accord. وهكذا. Celui qui arrive en retard, il arrive à quel moment?
Il arrive à la deuxième.
À la deuxième, il a eu la deuxième. Et bien, il rattrape, comme l'a fait l'imam. Après, il se lève, il fait la deuxième raka'a, mais il faut qu'il fasse aussi deux rukou' et deux sujoud. D'accord? Il fait pareil que l'imam. Est-ce que c'est bon, hein? D'accord. ثم يقول وصلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا حضرا وسفرا وحث الناس عليه فصلاة الوتر سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحضر والسفر وكذلك لأمره به فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. Puis on termine avec la prière de l'ouitre. Donc, la deuxième salat mentionnée par le cheikh ici, la prière de l'ouitre, et on peut dire aussi l'ouitre, qui est une sunna mu'akkada. Une sunna mu'akkada, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours faite, ne l'a jamais délaissée, qu'il soit en voyage ou résident. Il a toujours accompli cette prière-là. Et en plus, il a incité fortement ses compagnons à la faire. Donc non seulement il a lui-même faite, mais en plus il a incité avec la parole, ce qui renforce encore plus son côté recommandé. Donc, la prière de l'ouitre, c'est une sunna mu'akkada. Et le hadith, la preuve, c'est quoi? Le hadith d'Ali, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ô ahl al-Qur'an, ô gens du Qur'an, c'est-à-dire ô musulmans, ô croyants, awtiru, c'est-à-dire, faites la prière de l'ouitre, awtiru, car Allah, tabarak wa ta'ala, il est ouitre, c'est-à-dire, il est unique, et il aime al-ouitre, il aime ce qui est impair. Il aime ce qui est impair. D'accord? Naam. Donc le hadith, il se trouve dans les quatre sunan, alhamdoulilah, et Tirmidhi, il a dit, c'est un hadith qui est bon, qui est correct. D'ailleurs, et then, n'arrive au, inshallah ta'ala, huna, wa نستمر في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل صباح يا أخوة الحمد لله العلم عند الله جل وعلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله